Et notre invitée pour cette deuxième partie de l'EM, c'est l'association Les Éloignés. Bonjour Isabelle. Alors, les éloignés, vous en avez peut-être entendu parler, de près ou de loin, c'est l'association qui est basée à Saint-Éloi. Elle se donne comme objectif d'animer le bourg au travers de plein de choses, et ce plein de choses, c'était entre autres le café chantier. Projet qui avait malheureusement été contraint à l'abandon par des forces obscures. On va dire ça comme ça dans un premier temps. On va en reparler un peu plus tard. Mais l'association ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle propose un nouveau moment festif, enfin, c'est pas un nouveau, puisque c'est la troisième édition, si je me trompe pas,
oui,
du festival Adada, donc à découvrir le samedi 22 juin, et c'est à Saint-Éloi, donc sur le lieu-dit de Balanègue. Bon, on découvre la programmation de ce festival, peut-être dans un premier temps, ou alors peut-être, ou non, on commence par les intentions de ce festival. Qu'est-ce que vous aviez envie de proposer à travers ce festival?
Alors, l'idée, c'est de réunir les enfants et les parents. Donc de faire la part belle aux enfants l'après-midi avec des spectacles, on va dire, de qualité, c'est-à-dire qu'ils sont quand même sélectionnés. On considère que les enfants, ben, ils ne sont pas idiots, hein, et que même tout petits, ils sont capables de comprendre des choses et de s'émerveiller sur des thèmes intéressants. Donc voilà, donc on leur propose 4 spectacles. Il y aura un duo de clowns. Initié par la compagnie La Rouquine, donc le titre du spectacle, c'est La fin du monde. Il y aura également une partie...
Rassurez-moi, ce sera quand même... ça finit sur un message positif.
Tout à fait, et puis ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un deuxième spectacle, ensuite, avec un duo de clowns. Donc un deuxième spectacle, de Sophie Look. Alors, ce spectacle s'appelle Anda ou La petite fille qui marche, et ce sera du théâtre. Ensuite, toujours pour les enfants, la compagnie La Case. Alors là, c'est super, c'est des marionnettes assez extraordinaires, animées, qui sont des espèces de marionnettes géantes qui vont déambuler sur le site. Voilà, et donc animées par Tom notamment et d'autres personnes, donc la compagnie La Case. Et on finira par le Ciné Circus. Là, c'est un cinéma itinérant qui propose de la musique, du théâtre, du spectacle, voilà. Donc,
c'est pour la première partie d'après-midi, mais
ça,
du
c'est
coup,
pour l'après-midi. Alors, ce sera aussi entrecoupé par de la musique, évidemment, ouais, avec un DJ, DJ Dakat, qui va nous faire des interludes tout au long de l'après-midi, et évidemment, d'autres animations, voilà. Et ensuite, pour les plus grands, en fin d'après-midi, il y aura donc une danseuse contemporaine, donc Laurence, qui propose de la danse buto. C'est une danse d'inspiration japonaise. Bon, moi, je vais découvrir également. Je ne connais pas spécialement. Mais voilà, donc ça, c'est en fin d'après-midi. Avec ensuite, alors il y aura une partie restauration. Il ne faut pas oublier, parce qu'il y a quand même Irma et Clara qui nous préparent de la nourriture mexicaine en bio et végétarien, et je crois qu'elles se sont bien... enfin voilà, elles vont nous préparer des petits plats assez fantastiques. Voilà, donc ça sera la partie restauration. Et ensuite, en début de soirée, on commence avec des concerts.
Ça commence tôt, du coup, pour
alors,
finir
oui,
un peu tôt, parce qu'il faut que les petits puissent voir les concerts
alors,
aussi.
Alors, les concerts, bon voilà, après, les petits, ils seront peut-être déjà couchés sur une partie de la soirée, on verra. Pour les plus vaillants, ils peuvent rester. Alors, ce sera des DJ, donc DJ Dakat, comme je vous le disais, alors qui, lui, a fait partie de différents collectifs brestois. Le dernier en date, c'est Urban Bass, voilà. Il propose un mix assez éclectique de trip-hop, de dub, de rock... voilà, de raga, enfin, quelque chose d'assez éclectique en première partie de soirée. Il y aura également Fab, en DJ toujours, des télescopés. Lui fait partie d'un collectif qui a 20 ans d'existence, donc voilà, je pense qu'il est assez connu et réputé. C'est un mix électro et aussi assez éclectique, avec une techno puissante et évolutive. Donc voilà, ça va faire bouger le monde. Et puis, on a quand même un gars qui nous vient, un Texan.
Un Texan, c'est ça. Il vient avec sa moustache.
Je crois pas. Je ne crois pas, mais en tout cas, il vient avec des masques, il vient avec des trucs bizarres. En fait, il fait partie c'est Attic Ted, son nom d'artiste. Donc, il est musicien depuis 10 ans. Donc, il vient du Texas, comme je vous le disais. Donc, c'est aussi un artiste plasticien. C'est un côté très déjanté.
Qui s'inscrit bien un peu dans la programmation, en fait, qui est hyper éclectique. Non pas centré sur un seul art, mais sur plusieurs aussi. Il a un peu l'image du festival.
Ouais, tout à fait. En fait, ce qu'on souhaite, c'est quand même faire des choses un petit peu en marge, un petit peu déjantées. Et pour les petits et pour les grands. Voilà. Et voilà. Alors, lui, c'est vrai que Grady Roper, de son petit nom, il campe une galerie de personnages pendant son concert avec des masques assez bizarres qui viennent effectivement tout droit du Texas. C'est peut-être le soleil qui tape trop à cet endroit-là. Et donc, des masques avec des personnages qui semblent avoir des troubles comportementaux. Enfin, c'est assez étrange. Et on est super content de l'accueillir parce qu'en fait, c'est dans le cadre de sa tournée européenne. Donc, il joue dans les grandes capitales européennes. Il joue aussi en Israël et en Turquie. En Bretagne, il joue à Rennes et à Nantes et à Saint-Éloi. Donc,
jaloux.
Donc, on est super content. Donc, voilà. Alors, lui, sa musique, donc avec des instruments, je crois qu'il a un orgue Hammond notamment. Une guitare, des claviers, une boîte à rythme, voilà. Et on peut dire qu'on retrouve dans sa musique des traces de folklore américain, avec son côté donc bien déjanté. Et puis voilà, bon, que dire d'autre ? Il est proche de l'univers des Residents, mon super accent, et de Devo, voilà, pour les connaisseurs.
Ah ouais, d'accord.
Voilà.
Donc un peu masqué, quoi.
Voilà, exactement.
Et ouais, moi, je voulais vous poser une question par rapport à la prog. Elle est super ambitieuse, elle est super classe. Comment vous arrivez à bricoler tout ça ?
Eh ben parce qu'on a des gens super classe dans l'association. C'est-à-dire que non, c'est vrai qu'on s'est constitué quand même un réseau là depuis quelques années. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens dans l'association qui sont passionnés de musique. Donc voilà, ils ont leur propre réseau. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Et ça fait une belle prog, une super prog bien classe. Et ça se passe aussi dans un lieu aussi qui a vue sur mer, à Saint-Éloi. Pour situer Saint-Éloi, normalement, à vol d'oiseau, c'est 10-15 bornes du littoral, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Normalement, il n'y a pas la plage à Saint-Éloi.
Il n'y a pas la plage à Saint-Éloi, mais c'est vrai que cette année, on fait ça dans un lieu assez magique qui s'appelle Balanec, qui fait partie de la commune de Saint-Éloi, qui se trouve à 3 km du bourg et qui se trouve sur les crêtes rocheuses. Donc, c'est un site qui est assez magnifique, que finalement, peu de personnes connaissent, mais voilà, qui a...
Et qui fut valorisé, fut un temps, par le parc naturel régional d'Armorique, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, les anciens locaux du PNRA se trouvaient là-bas, donc c'est plus le cas depuis quelques
avant
années.
Avant de venir au Fou. Quoi.
Avant de venir chez vous, au Fou. Donc voilà, donc les locaux sont vacants, et voilà, le site est juste magnifique. Donc on avait déjà organisé un festival...
Donc ce n'est pas une publicité mensongère, c'est vraiment vu sur mer.
C'est vraiment vu sur mer, par temps dégagé, mais comme il va faire super soleil samedi, il n'y a pas de souci, on verra la
mer.
Prévu
c'est vendu,
prévu
c'est commandé.
C'est commandé, de toute façon à Dada, c'est forcément avec le soleil. Voilà.
Et donc, on va peut-être écouter un extrait de la programmation avec Grady Roper.
Oui.
Alors faut qu'on explique pour les gens, parce que sur l'affiche il y a marqué Grady Roper.
Ouais, tout à fait. Donc Grady Roper c'est son nom, hein, son nom de Texan, et sa formation, enfin voilà, quand son nom d'artiste, on va dire, c'est Attic Ted, et c'est sous cette formation là qui se produit un petit peu partout en Europe depuis 2 mois.
Eh ben on écoute ça tout de suite. We'll be right back. Et on écoutait à l'instant Addicted, donc qui sera présent sur le festival Adada le samedi 22 juin à Saint-Éloi. Et le festival Adada, c'est organisé par l'association Les Éloignés. Alors, est-ce qu'on peut en parler quand même des éloignés, les organisateurs? Parce que vrai qu'il vous est arrivé pas mal d'embûches ces derniers temps, notamment avec le Café Chantier.
Oui, tout à fait. Alors, juste avant de revenir à l'association au Café Chantier, je voulais juste quand même préciser deux choses. D'une part, il y aura la possibilité de camper sur place. Donc ça, c'est cool parce que c'est les agriculteurs qui nous ont prêté des champs pour qu'on puisse, enfin voilà, pour que les personnes puissent rester sur place éventuellement. Et d'autre part, remercier aussi pour leur aide logistique le département, le PNRA et la mairie de Saint-Éloi. Voilà.
Très
ça,
bien.
C'est fait.
Et on remettra une couche à la fin dans quelques minutes aussi.
OK. Et alors voilà. Et sinon, concernant l'association Les Éloignés et le Café Chantier, effectivement, on a eu quelques déboires. Bon, pour un café, c'est pas mal. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'on a pris la décision. On a pris, la décision de fermer le Café Chantier là au mois d'avril, parce que voilà, tout simplement, il y a des problèmes de voisinage et que ça devenait trop compliqué à gérer. C'est-à-dire que nous, la démarche de ce café associatif, c'était de redynamiser le bourg de Saint-Éloi. D'y apporter, enfin voilà, ce qui a été fait.
Parce que pour resituer quand même un petit peu le bourg de Saint-Éloi, enfin la commune de Saint-Éloi, c'est 218 habitants.
Oui.
Et la densité de Saint-Éloi, c'est 18 habitants au kilomètre carré. Donc vous répondez bien aussi à des problématiques de désertification rurale.
Tout à fait.
Vous animez
tout à
aussi une commune,
oui, oui.
Quoi.
Oui, oui, tout à fait. Ça répond, ça répond concrètement à des besoins. Hein. Des besoins en termes culturels. On a mis en place une petite épicerie, donc voilà, avec aussi les gens qui viennent chercher des produits locaux, par exemple. Mais il y avait tout le côté culturel lié au Café Chantier et qui est toujours lié à l'association, parce qu'on a pu faire venir des groupes de façon, enfin des groupes au niveau local, mais aussi des gens qui venaient de bien plus loin, hein, parce qu'on a fait venir à l'international des gens qui sont venus à Saint-Éloi. Donc
c'est un peu le rayonnement de Saint-Éloi aussi qui...
Oui, tout à fait. Je crois que le Café Chantier a bien fait parler de lui. Il était connu au niveau du Finistère, bien sûr.
Au moins jusqu'au fou, hein, sans problème. Nous ici, c'est bon.
Jusqu'au fou, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que ça dynamisait bien le bourg. On avait des gens qui venaient effectivement des villages alentours et de bien plus loin. Mais voilà, on s'est retrouvé face à cette problématique de voisinage. Et nous, l'idée, c'était pas d'embêter les gens. Donc, face à cet état de fait, on s'est dit, bon, il faut qu'on continue, parce qu'il est hors de question d'arrêter tout ça.
C'est
parce
ça, par rapport au Café Chantier, en fait, l'idée est toujours là.
Tout à fait.
Parce qu'il y avait eu un crowdfunding derrière, il y a eu un appel au financement participatif.
Exactement.
Cet appel à financement participatif va pouvoir financer peut-être un projet futur.
Exactement, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que ce réseau qui a été mis en place, tous les gens qui nous ont accompagnés, suivis, soutenus, l'idée c'est de continuer. Simplement, si ça ne peut pas se faire sur ce lieu-là, c'est de trouver un autre lieu.
Ce sera peut-être ailleurs.
Exactement.
Peut-être quelque chose en lien avec ce festival à Dada.
Alors, ce serait bien, on espère. C'est vrai qu'on est à Ballonnec, on y était déjà l'année dernière avec un festival qu'on avait organisé mi-juillet. Ce n'était pas le festival à Dada, c'était un autre festival de musique. Et cette année, à Dada a lieu à Ballonnec, et c'est vrai qu'on a, on trouve que ce site, il est vraiment fantastique, à bien des égards. Il est magique, au niveau environnemental, il est simplement magique, mais il a aussi l'avantage de... là, on ne gêne personne, puisqu'on est à 3 km du bourg, et il n'y a que les oiseaux pour nous écouter.
Eh bien, merci beaucoup. On conclut peut-être sur les infos pratiques. On redit juste que c'est entrée à prix libre.
Entrée à prix libre, c'est à partir de 14h. Et puis, pour les gens qui viennent pas en famille, c'est le soir, c'est à partir de 20h30 les concerts. Voilà. Et peut-être une dernière petite chose, c'est que concernant ce projet de Balanec, on a commencé déjà à y travailler. Donc, il y a des associations qui sont... On est un collectif d'associations et on cherche des gens qui sont susceptibles de nous rejoindre, que ce soit au niveau culturel ou environnemental, parce qu'il y a plein de choses à faire et que il y a plein de projets dans les valises. Donc, tous sont les bienvenus.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle d'avoir fait passer le message. Et puis on rappelle, le festival à Dada, un festival pour enfants et adultes aussi, donc le samedi 22 juin à Saint-Éloi. Et on va faire un petit changement dans le programme. On devait partir écouter de la musique, là, faire une petite pause musicale. Mais finalement, on va écouter un reportage d'Emeline qui nous amène à Châteauneuf-du-Fou sur une sensibilisation de l'EPAGA, l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne, qui proposait une animation, une sensibilisation au collège donc de Châteauneuf sur les questions d'inondation de l'Aulne.
Pour avoir un risque majeur, on combine un aléa et un enjeu. L'aléa, c'est quoi?
Dites-moi. Les événements qui se passent.
Ouais.
L'inondation.
Voilà. L'aléa, c'est ça. L'aléa, il vient du canal. L'aléa, je vous l'ai déjà dit, c'est la probabilité que l'aulne sorte de son lit. La probabilité d'avoir une inondation. Et les enjeux, c'est
ce qui peut se passer.
Ouais. Les maisons qui peuvent être touchées par... les choses qui peuvent être touchées ou abîmées par...
L'inondation. C'est ça, absolument. Pour avoir un risque majeur, il faut à la fois l'eau qui sort de son lit, mais aussi des enjeux inondables, les maisons, les routes. Si on a une inondation mais qu'on n'a pas de maison impactée, c'est pas un risque majeur, on s'en occupe pas, ok? Qu'est-ce qu'on peut faire sur une habitation pour se protéger des inondations?
Avoir des bâtards d'eau.
Et c'est quoi des bâtards d'eau?
C'est une planche qu'on glisse dans une encoche ou je sais pas comment ça s'appelle. Et ça, quand il y a l'eau, c'est l'eau, si elle va pas plus haut, normalement ça protège la maison.
Alors pourquoi ici c'est une zone à risque? Pourquoi il y a des risques d'inondation ici?
Parce qu'on habite à côté d'un canal.
Par contre, quand tu observes, tu vois que l'eau peut monter rapidement. Il n'y a pas de moyen pour que l'eau reste dans son lit.
Si, il y a les écluses qui permettent pour pas que ça aille trop vite, l'eau. Et il y a, pour prévoir que l'eau monte pas trop vite, il y a les stations limimétriques.
Et du coup, c'est quoi ces stations?
C'est pour prévoir comment l'eau elle va monter et si c'est dangereux ou pas.
Ça permet d'anticiper la crue, c'est ça?
C'est ça, on fait de la prévision. La station, elle permet de mesurer en temps réel les hauteurs d'eau, les débits de la rivière. Et quand ça atteint un certain seuil critique, on est alerté suffisamment à l'avance et on a le temps de se protéger. Comment on fait dans une maison si l'eau arrive? On se met où? On se réfugie où?
À l'étage.
Qu'est-ce qu'on fait de tous ces objets personnels, vulnérables, de tout ce qui coûte un peu? Qu'est-ce qu'on fait?
On les met en hauteur.
Et comment on peut les mettre en hauteur, ces objets?
On les monte au grenier.
Sur cale aussi, on peut les mettre.
Et après, sur les routes, par exemple, qu'est-ce qui a été fait ici pour pouvoir passer d'une berge à l'autre en cas d'inondation?
Le pont.
Ouais. Le nouveau pont, il est
surélevé.
Par rapport aux anciens. On a surélevé le niveau des routes et on a surélevé le niveau des ponts. Comme ça, on peut communiquer d'une berge à l'autre et on peut se porter assistance et secours d'une berge à l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à Châteauneuf, si on a une inondation, où est-ce que la mairie peut nous reloger en cas d'évacuation?
Dans les gîtes de vacances qu'il y a de l'autre côté du pont.
Voilà, de l'autre côté du pont. Donc, il est évident que pour pouvoir amener les familles de l'autre côté du pont, il faut bien pouvoir traverser la rivière. Si on n'avait que l'ancien pont... qui date de Louis XIV, nous a dit le témoignage du riverain, le pont serait sous l'eau, on ne pourrait pas faire ça. Donc c'est intéressant de surélever les ouvrages d'art et les ponts.
Alors ça veut dire que ici sur Châteauneuf, il y a une zone qui est plus à risque pour être inondée que l'autre. Il y a un côté qui risque plus d'être inondé, c'est ça?
Oui.
Et pourquoi?
Parce que ça fait un creux dans la route. Du coup, c'est plus bas.
Alors du coup, vous avez parlé de riverains, vous avez rencontré des gens qui habitent ici, qui ont aussi eu des inondations chez eux?
Une personne qui a vécu ici pendant les inondations en 1944.
Ouais, la personne a connu 4 inondations et vous a surtout parlé de la grande crue qu'on considère aujourd'hui comme historique, hein, dans les mémoires. Elle date de quand, cette grande crue historique sur le canal ?
Elle date de 2000.
Voilà. Et est-ce que la crue de 2000, c'est la plus grande crue que l'Aulne peut connaître ?
Non.
Non ? Ça veut dire quoi ? Ça peut être encore pire ?
Oui.
Pourquoi est-ce que l'inondation, tout d'un coup, elle serait encore plus forte qu'en 2000 ? Qu'est-ce qui pourrait arriver pour qu'il y ait encore plus d'eau dans les maisons ?
Bah, qu'il y ait plus de pluie.
Ouais.
Et pourquoi il y aurait plus de pluie ?
Bah, à cause de la fonte des glaces.
Ouais, effectivement, hein, on en a parlé, hein, le changement climatique implique des pluies d'intensité exceptionnelle de plus en plus fréquentes, donc potentiellement des mises en crue de l'Aulne de plus en plus fréquentes. Et tout à l'heure, le monsieur vous a aussi parlé d'un événement aggravant les inondations dans le secteur de Châteaulin. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était ? Une spécificité liée à la Bretagne et au fait qu'on n'est pas loin de la mer.
L'écluse à côté de Châteaulin.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait de particulier ?
Bah, c'est une écluse maritime. Mmh. Du coup, elle accueille des bateaux et de la mer.
Ouais. Et surtout, hein, maritime, ça veut dire près de la mer. Ça veut dire que si on a une forte marée, ça peut empêcher l'Aulne de s'écouler normalement. Ça peut ralentir et accentuer encore l'inondation. Est-ce que la marée, elle revient jusqu'à Châteauneuf-du-Fou ?
Non.
Non.
Là, c'est quoi la rivière qui traverse Châteauneuf-du-Fou et d'où elle provient, cette rivière ?
Elle vient de Nantes, elle va jusqu'à Brest. Et après, ça va dans la mer.
Et c'est quoi son nom ?
C'est l'Aulne.
L'Aulne, c'est ça. Alors, c'est quoi la différence entre l'Aulne et le canal de Nantes à Brest ?
Bah, l'Aulne, c'est son nom à elle. Et le canal de Nantes à Brest, bah, c'est de où il part jusqu'à où il va.
Ouais, effectivement. En fait, chez nous, c'est bien l'Aulne qu'on retrouve dans le canal, mais le canal de Nantes à Brest, c'est pas l'Aulne tout du long. Hein. C'est plusieurs rivières qui se succèdent et qui se jettent dans une partie qui a été canalisée. Mais sur notre territoire, l'Aulne, elle a une partie qui n'est pas forcément canalisée. Elle a une partie qui est naturelle. On en a parlé. Elle se trouve où, la source de l'Aulne, par chez nous ? Dans quel massif ? Les Monts d'Arrée ? Ça vous parle ?
Oui.
Voilà. Donc l'Aulne, elle est naturelle sur la moitié de son lit, de son parcours. C'est bien plus tard, arrivé à Landelot, qu'elle se jette dans la partie canalisée, ok ?
Vous avez travaillé en plusieurs groupes, donc en quoi ça consistait ces différents groupes ? Qu'est-ce que vous avez fait de différent ?
Bah, on faisait des activités différentes.
C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer ?
Qui veut expliquer ? Je fais ma valise, par exemple, l'atelier d'hier.
Bah, en fait, on avait des sacs et il fallait trouver 12 objets qu'il fallait pour partir pendant 24 heures.
Pour te préparer pour une éventuelle inondation, c'est ça ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu pouvais mettre dans ta valise ?
Des médicaments, une couverture de survie, des jeux, un portable, carte d'identité, des sous, les clés, carte vitale, carnet de santé,
à manger.
Alors, il y avait quoi autrement comme activité que vous avez fait ?
On a appris à ouvrir une écluse.
On devait faire une ville avec des maquettes.
Alors, en quoi ça consistait, le fait de faire une maquette ? Ça devait vous apprendre quoi, cette maquette ?
Bah, on n'a pas le droit de construire sur les prairies, au bord des canals.
Les zones inondables ou les zones pas inondables.
Et qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus construire sur les zones inondables ? C'est quoi la contrainte, du coup, la difficulté, vous vous souvenez ? On en a parlé, hein, c'est qu'au bout d'un moment, quand on ne peut plus construire sur les zones inondables ni sur les zones naturelles, bah, il n'y a plus de place, en fait. Hein ?
On fait des immeubles.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est obligé au bout d'un moment de concentrer les habitations et les gens dans les centres-villes, hein, dans les centres urbains. Et le problème, c'est que voilà, on manque de place, on manque de foncier, donc on est obligé d'abandonner un peu l'habitat individuel au profit des immeubles. Alors, petite question, quelles étaient les deux espèces dont on a parlé emblématiques du bassin versant de l'Aulne et d'espèces animales ?
La loutre et la chauve-souris ?
Ouais. Qui se souvient du nom exact de la chauve-souris qu'on a chez nous ?
La chauve-souris qui aime pas le bruit.
Le grand rigolaf. Et tout à l'heure, à l'écluse, on a dû vous parler d'une troisième espèce emblématique du bassin versant, qui est une espèce piscicole, un poisson.
Le saumon.
Ouais, le saumon atlantique. Est-ce que vous voulez juste parler des repères de crue, comme on va les poser à Châteauneuf ?
Bah, c'est pour voir à quelle hauteur l'eau est montée, jusqu'où l'eau est déjà montée.
Et à quoi ça sert de poser des repères de crue? À quoi ça sert d'informer les gens sur les niveaux que l'eau peut atteindre?
Bah, si ça arrive, de faire attention.
Ouais, c'est ça, un homme averti en vaut deux, hein, donc... Quand on sait qu'il y a des inondations, on peut se préparer, on est déjà un peu plus vigilant. Et puis surtout, quand on sait jusqu'à où l'eau monte, bah, ça peut permettre de savoir où est-ce qu'il faut mettre en sécurité les objets. Hein. Si l'eau monte de 10 cm, il suffit peut-être de surélever vos objets dans la maison. Mais si l'eau atteint 2 mètres, on sait qu'il va falloir protéger les choses en les montant à l'étage.
Et alors, est-ce que vous avez vu aussi comment ça se passe l'évacuation ?
Bah, ici, aux maisons qui est au bord du canal, il y a une porte à l'arrière pour être à l'abri, pour sortir. Et sinon, après, on a vu hier qu'il fallait se mettre en évidence s'il y avait les pompiers qui venaient en canoë pour voir s'il y avait des gens ou pas.
Et on était à l'instant avec Emeline, en compagnie d'élèves du collège de Châteauneuf-du-Fou, qui avait suivi Géraldine Berrioux, animatrice à l'EPAGA, l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne. Et comme il nous reste quelques minutes, on a juste le temps d'écouter un petit extrait d'un des groupes qui sera présent sur le Caravan Fest à Crozon le samedi 13 juillet, avec le groupe Frankie Teardrop Dead. Écoutez, un des groupes qui sera présent sur le Caravan Fest à Crozon, mais on reparlera et on rediffusera d'autres titres de groupes qui seront présents sur ce festival à la salle Tiscol à Saint-Ernaud, puisque c'est un festival qui en vaut le coup aussi. Donc on va clore cette émission, on va se donner rendez-vous demain pour une nouvelle édition du LEM. Demain, Véronique recevra notamment le laboratoire AMUR, le Centre de droit et d'économie de la mer. Donc c'est un centre de droit et d'économie de la mer installé à Plouzané, à l'IUM, à l'Institut universitaire européen de la mer. Et à partir de 17h, vous retrouverez l'émission Pop Évasion avec Fred. À 19h, les deux Arlequins et Pantalon qui vous parleront d'actualité avec un œil décalé. Enfin, on ne sait pas trop si c'est eux qui sont décalés ou leur œil ou même l'actualité. Bref, c'est pas grave. Bonne journée à l'écoute de Radio Évasion.